Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde, deuxième épisode, Rome ville ouverte de Roberto Rossellini. Avec Jean Gilly, Julien Neutre et Aurore Renaud. On sait quand ça se passe, c'est le tout début de Rome ville ouverte avec ce panoramique sur la ville, une patrouille allemande qu'on vient d'entendre chanter, filmer en plongée avant qu'elle ne frappe un immeuble. Alors pour l'anecdote, c'est cet immeuble où a séjourné Roberto Rossellini à la fin de la guerre chez un vieux camarade communiste, Amendola, immeuble du balcon duquel s'échappe donc ce Radio Londres et en même temps le chef de réseau de la résistance que la patrouille allemande cherchait avant qu'on entre dans le film. Il faut peut-être, Jean Gilly, rappeler qui est Roberto Rossellini quand il tourne le film. C'est loin d'être un débutant. Il a déjà plusieurs films, longs métrages derrière lui, tourné donc pendant le fascisme et avec le soutien, rien moins que du fils de Mussolini.
Il était très ami en effet de Vittorio Mussolini, le fils aîné du Duce, qui curieusement, en étant le fils aîné du Duce, s'intéresse au cinéma. Il est producteur, il est officiellement responsable de la revue Cinéma. Il écrit des scénarios sous l'anagramme de Tito Silvio Mursino, qui est l'anagramme de Vittorio Mussolini. Et Rossellini a joué de cette amitié. Il a même mis le pied à l'étrier en allant en Éthiopie tourner certains plans de Luciano Serra Pilota, grâce à l'appui de Mussolini Junior, pourrait-on dire. Et il a surtout tourné 3 films qui sont clairement des films d'inspiration belliciste, proche de l'idéologie au pouvoir.
Donc, il faut dire leur nom, Le Navire Blanc, Un Pilote Revient et L'Homme à la Croix, qui explore un peu toutes les armes de la guerre. Ça se passe dans l'aviation, dans la marine et dans l'infanterie.
Et donc, d'une certaine manière, c'est le metteur en scène le plus inattendu qui soit pour tourner Rome ville ouverte. Certains cinéastes ont pris leur distance du fascisme. Certains ont refusé ou refuseront d'aller à Venise où l'on essaie de relancer une production après la fermeture de Cinecittà. Et Rossellini pourrait s'inscrire dans ce courant. Or, c'est lui. Et je pense que c'est toute son intelligence que d'avoir compris que les temps changeaient. D'avoir compris que s'il fallait parler de quelque chose, c'était la résistance. S'il fallait parler de quelque chose, c'est la présence des Allemands à Rome. C'est quand même une situation... On sortait de l'axe Rome-Berlin qui voyait les Italiens et les Allemands alliés. Et les Allemands envahissent l'Italie, notamment la capitale Rome. Ils y arrivent en septembre 43. Ils vont y rester jusqu'en juin 44, c'est-à-dire un peu moins d'un an. Ils vont y commettre d'horribles faits d'arrestations, de tortures, comme on le voit dans le film. Donc il fallait un certain courage pour se lancer dans ce projet, et Rossellini se révèle être l'homme de la situation.
Mais Aurore Renaud, ces trois films que tourne Rossellini, qui est la vraie trilogie de la guerre, parce qu'on a tendance à parler à partir de Rome, ville ouverte, Paisa et Allemagne année zéro d'une trilogie de la guerre, qui est une trilogie de l'après-guerre, en fait. Il y a une trilogie de la guerre. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de rossellinien, malgré tout, dans l'approche, notamment, des hommes sur le terrain par Rossellini?
Oui, absolument. C'est vrai que c'est une trilogie de la guerre. Mais comme ça sera le cas dans ces films suivants, c'est quand même une trilogie sur les vaincus. Un navire hôpital, on s'intéresse aux blessés. Luciano Serra pilote, c'est un pilote qui est fait prisonnier. Donc déjà, il y a cet intérêt pour les vaincus de l'histoire. Et puis, dans la manière, dans l'esthétique, il y a des choses qui sont assez maladroites, assez naïves, voire superficielles. Mais quand même, on est déjà dans une hybridation des castings qu'on retrouvera dans Rome, ville ouverte, avec beaucoup de non-professionnels, évidemment, sur le navire hôpital. Dans Luciano Serra pilote, on a quand même Massimo Gerotti, donc évidemment on a une star, mais le reste, ce sont aussi beaucoup des non-professionnels. Et puis il tourne en décor réel. Le fait d'avoir travaillé justement sur ce navire hôpital, de montrer les blessés, c'était vraiment déjà quelque chose qui était très proche de la visée réaliste documentaire qui sera celle des films de la trilogie d'après-guerre qui arrive très très vite après.
Julien Neutre, Roberto Rossellini raconte dans ses mémoires qu'il est entré en clandestinité dès juillet 43, c'est-à-dire dès avant que les Allemands rentrent dans Rome, et que c'est là qu'il commence à écrire Rome ville ouverte, alors que Rome est encore occupé, et puis le film va commencer son long tournage apparemment dès le 19 janvier 44, c'est-à-dire quand même 5 mois avant que la capitale ne soit libérée. Donc c'est un film qui est dans l'instant total, Julien Neutre.
Alors le tournage, sous le contrôle de mes camarades, commence en janvier 45.
Tout à fait.
Pas 44.
D'accord. Il y a plusieurs ouvrages qui disent que ça aurait commencé dès janvier 44, ce qui me semblait quand même curieux.
Alors le scénario, il l'écrit en 44.
Avec le scénario, oui. Et sachant que le scénario, il commence à l'écrire à partir de d'autres sources, d'autres médiatisations de ce qui est rapporté. Donc c'est pas des sources directes, on n'est pas dans un documentaire, justement, mais Rossellini part d'histoires qui sont déjà en partie médiatisées par des journaux, par la littérature, par la sculpture, pour certains personnages. Et donc, il part de sources et il compile ces sources. Et donc, il se fait finalement la synthèse d'un renouveau et d'une résistance qui est une nouvelle posture morale d'un engagement citoyen de la part des artistes et qui part notamment de la littérature. Le mouvement néo-réaliste, qui est ce geste-là de se réapproprier finalement l'histoire contemporaine en train de se faire, qui avait été complètement oublié pendant la période fasciste, et voire écrasé par la propagande et le contrôle des médias, il se réapproprie cette démarche-là en partant de sources existantes. Donc c'est pas des choses de première vision, c'est pas des témoignages qu'il a pu vivre, c'est pas non plus une observation directe, c'est déjà médiatisé par des sources.
Jean Gilly, il faut rappeler un peu le paysage cinématographique au moment où Rossellini tourne, il n'y a plus de cinéma. Cinecittà, je crois, sert de terrain pour des réfugiés. Alors, dans quelles conditions, même économiques et pratiques, Rossellini va se lancer dans ce tournage?
Oui, Rossellini a un réseau d'amis. Bon. Il est entouré par des gens qui vont soutenir ce projet.
Il faut rappeler que Rossellini est donc un fils de famille très aisée. Il a dilapidé l'héritage. C'est un playboy avant-guerre. Mais voilà, il connaît des gens.
Voilà, il connaît des gens. Il sait s'entourer. Il faut dire aussi que dans l'été 43, il avait commencé un film qui s'appelait Scalo Merci, garde marchandises, qui deviendra Desiderio, qui sera interrompu justement quand arrivent les Allemands. Rossellini se réfugie, quitte Rome et va se réfugier dans les Apennins, et il ne reviendra à Rome qu'au printemps suivant. En fait, une bonne partie de l'intelligentsia italienne quitte Rome. Et des gens comme Moravia qui part avec Elsa Morante et son épouse, il va se réfugier à Fondi, en Ciociaria. Soldati, Steno, Freda vont se réfugier à Naples. Enfin, donc la ville est désertée. Et c'est donc en étant en quelque sorte à la campagne, entre guillemets, qu'effectivement, il prépare ce film. Il prépare ce film, il pense, il recherche des acteurs, il définit des personnages, il s'inspire. Au départ, d'ailleurs, le film devait être simplement un court-métrage. Hein, ça devait être un documentaire sur le personnage du prêtre, qui est un prêtre authentique, qui a d'ailleurs été fusillé. Donc il y a une partie du récit de Rome ville ouverte qui est inspirée de l'histoire de ce prêtre. Et puis, en cours de route, avec Sergio Amidei, qui était le grand scénariste de l'époque, ils se rendent compte que le film serait très partiel s'il n'abordait que l'image d'un prêtre, c'est-à-dire que la résistance des catholiques. Donc ils ont l'idée d'y ajouter et de créer un antagoniste, en quelque sorte, qui est un résistant communiste, lui. Et avec ces deux éléments, ils vont bâtir, à ce moment-là, un long métrage. Et se posera la question de savoir à qui on fait appel pour interpréter ces personnages. La femme du peuple, ce sera Anna Magnani, qui, par ailleurs, dans ces années-là, est la compagne de Rossellini, qui a souvent mélangé vie privée et vie publique. Pour le rôle du prêtre, il y a un contre-emploi absolu en faisant appel à Aldo Fabrizi, qui est un acteur de revue, qui est un comique. Et c'est Fellini qui faisait partie de l'équipe travaillant avec Rossellini.
Qui alors, jeune journaliste,
Fellini. Jeune journaliste, caricaturiste, travaillant, comme on l'a vu dans le film de Scola, dans une revue satirique qui s'appelait le Marco Aurelio, il Marco Aurelio. Et donc, Fellini était devenu l'ami d'Aldo Fabrizi, et c'est lui qui a servi d'intermédiaire et qui a décidé, Fabrizi, à accepter ce rôle totalement inattendu pour lui, hein, de jouer le rôle d'un prêtre, qu'il joue d'ailleurs de façon magistrale, et on pourra y revenir. Enfin, et ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure à propos des non-acteurs, pour l'ingénieur communiste, il fait appel à un ami, tout simplement. Ils étaient amis de lycée, ils avaient fréquenté le même lycée, ils étaient très liés, Marcello Paliero, qui était par ailleurs un garçon qui voulait non pas devenir acteur, mais il voulait devenir metteur en scène, ce que finalement il deviendra. Et pour les besoins du film, là, on voit très très bien que Rossellini applique la règle du non-acteur, c'est-à-dire on choisit quelqu'un qui est proche du personnage qu'on va lui demander d'interpréter, qui est proche psychologiquement, qui est proche physiquement, qui est proche humainement, et Paliero va parfaitement interpréter ce rôle de Manfredi, le résistant communiste qui sera torturé par les Allemands, qui sera torturé à mort, ce qui est une séquence absolument effroyable.
Alors vous avez mentionné le nom de la Magnani, Anna Magnani, voici comment elle entre dans le film.
Piano, piano, calma, calma.
Ma che succede?
Non lo vedete, hanno assaltato il forno.
E voi che fate?
Io purtroppo sono in divisa.
Ma che buono!
Cioè non posso far niente, basta fuori di popolo! Io sono impotente.
Lo so, ma con 100 grammi al giorno.
Brutta carogna, pure i pasticcini ci aveva, guardate qua.
Oh, questo è grave.
E poi diceva che non c'aveva farina.
Buoni,
oh, Agostino, e perché non te li vai più da te, eh?
Io mica posso, io sono sacrestano, poi vado a finire all'inferno.
Ma allora i pasticcini te li mangerai in paradiso. E lasciate stare.
Sarà fino, ma è una pazzia. Nel vostro stato.
Che devo morire di fame.
Ma va a morire ammazzata, va!
Va accompagnare, aspetta.
Voilà, c'est une foule affamée qui assaille une boulangerie, qui la pille même. Et puis, parmi elles, il y a donc cette femme au franc-parler bien romain. Ceux qui connaissent un peu l'italien se seront régalés de cette façon de dire, en substance, va mourir pour être poli. C'est donc Pina, jeune veuve avec enfant, enceinte de son fiancé ouvrier typographe qu'elle doit bientôt épouser. Et c'est donc Anna Magnani qui arrive dans le film, Julien Neutre. Et c'est pas la Anna Magnani qu'on connaît, c'est pas Mama Roma encore, c'est quelqu'un qui, elle aussi, est à contre-emploi, finalement, dans ce film, par rapport à ce qu'elle a fait avant.
Alors, oui et non, et on va toujours être sur cette ligne de crête.
Quand on parle de Rossellini, c'est toujours oui et
ouais,
non.
Oui, parce qu'il résiste à tout étiquetage, et c'est un film très très hybride, et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant, mais dans le cas de Magnani, là, elle joue un rôle de femme du peuple italien, et c'est déjà cet emploi-là qu'elle a dans le cinéma des années 30. alors qui est assez atypique par rapport au cinéma, on va dire, mainstream de l'époque, où les actrices les plus en vue sont plutôt très sophistiquées et dans des drames eux-mêmes très maniérés. Mais elle a déjà cet emploi, d'ailleurs, avec Adolphe Abridi, avec lequel elle fait un couple déjà identifié de figure du peuple romain véridique.
Mais figure comique.
Et figure plutôt comique, en effet. Mais là, à ce stade-là, on ne sait pas encore qu'elle ne va pas l'être. Et on reparlera de cette scène fondamentale, évidemment,
on va en parler tout à l'heure, oui.
La scène clé du film et un peu de l'histoire, finalement, du cinéma italien et de l'histoire de Pina et de Anna Magnani. Et Anna Magnani, en effet, est une figure, du coup, assez atypique dans un emploi aussi dramatique et tragique. Mais ça n'a pas été une évidence, d'ailleurs, que ce soit elle qui obtienne le rôle. Elle était en concurrence avec Clara Calamai, qui est la star du nouveau cinéma en train de poindre, et qui, lui vole le rôle dans Ossessione de Visconti en 42, qui marque un tournant déjà dans l'écriture et les modalités d'écriture cinématographique italienne. Et à l'époque de Ossessione, elle est enceinte et elle est empêchée d'être recrutée pour jouer le rôle du film de Visconti. Et elle prend sa revanche avec Rome ville ouverte, parce que Clara Calamai, qui était le choix numéro un de l'équipe du film, pour plein de raisons de disponibilité, de négociation, finalement ne s'engage pas dans le film. Et notamment, elle manque complètement de vision, Clara Calamai ne refuse que son personnage meurt trop vite dans le film.
Alors on va le découvrir tout à l'heure. Résultat, on se souvient évidemment beaucoup plus d'Anna Magnani aujourd'hui. Aurore Renaud, revenons un peu sur cette scène, parce qu'on trouve là réunis quelques-uns des éléments qui vont représenter le néoréalisme, selon Rossellini, parce qu'il faut préciser que le néoréalisme de Visconti, dont on trouve les débuts dans Ossessione, celui de Vittorio De Sica avec le voleur de bicyclette jusqu'à Umberto D, ce n'est pas exactement le même que celui de Rossellini. On a ici donc la vie quotidienne du petit peuple qui souffre de la guerre, joué par, on imagine, les gens qui ont vécu la même chose quelques mois auparavant, le tout filmé en extérieur. Donc là, c'est vraiment pur néo-réalisme.
Ah oui, on peut revenir effectivement sur les conditions de tournage du film. Effectivement, ça a été très chaotique et ça a duré quand même pas mal de mois parce qu'il manquait de moyens. Vous disiez effectivement que Cinecittà, c'était pas possible, c'était un camp de réfugiés. Et pour Rossellini, ce qui est formidable dans cette idée, c'est que ça va déterminer quelque part le style. Si on ne peut pas tourner en studio, on va tourner en partie dans la rue. Et si on filme dans la rue, on va pas faire un mélodrame bourgeois, on va s'intéresser aux gens qui souffrent de privation, qui souffrent de la guerre. Et ça va donner effectivement notamment le très beau personnage de Sorapine, qui, on le découvre rapidement, est enceinte, donc hors mariage. C'est quand même aussi très intéressant pour l'époque.
Parce qu'à l'époque du fascisme, qui veut se marier à l'église, cependant, pour pas se marier devant un maire fasciste.
Absolument. Et d'ailleurs, le mariage est prévu pour demain. Donc le temps est très ramassé dans Rome ville ouverte. Mais oui, c'est donc tourné en extérieur. Et il faut aussi rappeler que le tournage a été si long parce qu'il manquait de tout. Il manquait d'électricité pour les quelques scènes qui ont lieu. Enfin, quand même, il y a eu du studio. Il tournait à l'époque, évidemment, sans son, parce que c'est quand même une grande habitude du cinéma italien. Et pellicule. Il manquait de pellicule. Ça coûtait très cher, ils arrivaient à débrouiller de temps en temps des morceaux de pellicule par-ci, par-là, et ils filmaient selon la durée de la pellicule qu'ils avaient. Et donc, forcément, ça a induit un style qui est devenu ce style du néo-réalisme.
D'ailleurs, quand on regarde le film, il est très découpé au début, et les scènes sont beaucoup plus longues sur la fin. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'ils ont mis la main sur un stock de pellicule ensuite, mais effectivement, ça induit le découpage même.
Tout est possible, effectivement.
Jean-Gilles.
Ils se sont réfugiés dans des locaux à proximité d'un poste tenu par les Américains, et ils se branchent d'ailleurs, c'est une anecdote bien connue, ils tirent un câble pour avoir de l'électricité sur le plateau et pouvoir alimenter la caméra. Il faut au moins la caméra et quelques projecteurs, donc il faut de l'électricité. Il y a d'ailleurs dans cette rue, cette petite rue en plein centre de Rome où se trouvait le studio improvisé dans lequel Rossellini a tourné son film, il y a une plaque aujourd'hui hein, qui signale ici Rossellini. Moi j'aimerais que dans toutes les villes, notamment les villes où il y a eu beaucoup de tournages, il y ait des plaques partout. Hein. Dans Paris par exemple, on pourrait en mettre dans toutes les rues pratiquement pour indiquer ici. Et c'est très émouvant hein, quand on passe dans ce... On est tout près de la fontaine, de la place du Triton. Quand on passe là et qu'on imagine que en 45, donc Rossellini tournait avec Anna Magnani, avec les autres acteurs, avec Aldo Fabrizi, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant. Donc, malgré toutes les difficultés rencontrées, Rossellini réussit à porter son film à terme. Quoi. Et il sera prêt à l'automne, il sortira à l'automne, et contrairement à ce que l'on trouve souvent écrit à droite à gauche, le film a un certain succès. Quoi. Et ensuite, il ira, on le sait, au Festival de Cannes en 1946, où il fera partie
alors ça,
des...
On va en parler de sa sortie ensuite, parce que là, le film est encore en cours de tournage. Mais je voudrais revenir un peu sur l'écriture de ce film, et sur cette façon... très scénarisé pour le coup, pour ceux qui connaissent le Rossellini un peu plus tardif, et ça très vite dès le second volet de sa trilogie, donc de l'après-guerre, Paisa, Rossellini va s'en défier, Julien Neutre.
Ouais, c'est pour ça que c'est un film assez hybride et qui est, alors évidemment, dans le tournage même, fait la place à un peu d'improvisation, mais qui est plus de la débrouillardise pour s'adapter aux conditions, mais c'est très écrit et très construit, et pour le meilleur d'ailleurs, parce que ça nous offre une analyse du coup réelle des conditions de cette libération, des oppositions entre résistance et occupation, mais en effet c'est très construit, et Rossellini lui-même, dans son évolution personnelle, se reprochait ensuite des effets un peu de séduction narrative ou symbolique, mais qui font aussi la richesse de ce film. Encore une fois, la capacité à la fois réussir à communiquer une réalité presque existentielle et à donner comme ça un sentiment proximité, de vérité, d'immédiateté, mais en même temps de porter très très fort des valeurs symboliques et donner des visages et des images fortes à ce moment et à des oppositions comme ça sociales et politiques, c'est la force de Rome ville ouverte.
Et c'est évidemment un film qu'on voit toujours à l'aune de tout ce que Rossellini a fait après, nous qui le découvrons maintenant, et on voit poindre donc dès ce film certaines des obsessions, on parlait de ossessione, certaines des obsessions de Rossellini, dont celle-ci.
France Culture, les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Et tiens, ferme la porte.
Fier de vous. Maintenant, il faut se grouiller, et dites rien surtout. Allez, salut. Si j'avais son père, je lui en ferais voir, moi. Bonne nuit.
La détonation qu'on a entendue en début d'extrait, c'est un wagon d'essence qui a explosé. Et qui a fait le coup? Eh bien, c'est une bande d'enfants de l'immeuble de Pina, dont son propre fils, cette bande d'enfants qui rentre gaiement et fier de son exploit en plein couvre-feu, avant de se faire évidemment sévèrement remonter les bretelles par leurs parents. Et voici qu'apparaît dans le cinéma de Roberto Rossellini, l'enfant qu'on retrouvera notamment dans Allemagne année zéro et Europe 51, Aurore Renaud, pourquoi cette obsession de cette figure chez Rossellini dès Rome, ville ouverte?
L'enfance, c'est la grande figure du néoréalisme. Hein. C'est chez Rossellini, chez Desica, Les enfants nous regardent, Chouchia. Évidemment, l'enfance, c'est l'innocence. Et en même temps, elle est plongée, cette enfance, dans la guerre. Et là, ce qui est formidable, c'est de voir qu'effectivement, il joue à la guerre en miniature, mais elle a des effets très concrets, puisqu'il y a une explosion, et que c'est notamment cette explosion qui va attirer le regard des Allemands, et il va y avoir la descente le lendemain. Enfin, j'en ai des frissons de m'en souvenir, parce que, en fait, c'est leur attaque qui va précipiter la mort de la Magnani le lendemain. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment c'est cette idée de la débrouillardise. Qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant dans ce monde d'adultes? Et les regarder. Enfin, faut aussi savoir que Rossellini était déjà père de famille, hein. Il avait deux enfants, Renzo et Romano. Il y a encore ce regard assez doux, hein, sur l'enfance dans Rome ville ouverte, qui va profondément changer puisque très rapidement il va perdre son fils aîné, Romano, d'une crise d'appendicite. En plus, un jour où il n'était pas là puisqu'il était parti avec sa maîtresse. Enfin, ça sera une grande culpabilité dans la vie de Rossellini, à tel point que quand il fait Allemagne Zéro en 48, il le dédie à son fils Romano. Et c'est dans Allemagne Année Zéro qu'on verra, je crois, le premier suicide d'un enfant dans un film de fiction, puisqu'à la fin, il se jette dans le vide, hein, dans les ruines de Berlin. C'est pareil dans Europe 51, on a la tentative de suicide de Michel au début du film, qui va précipiter aussi la révélation d'Irène, qui va ensuite changer complètement son parcours. Donc il y a véritablement un chemin de l'enfant à travers le néoréalisme, et aussi dans le cinéma de Rossellini qui va vers cette prise de conscience-là.
Jean Gilly, c'est un film qui se termine par des enfants, par des regards d'enfants sur le prêtre dont on parlait tout à l'heure, qui sera fusillé à la fin du film. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on a le sentiment que Rossellini se pose déjà la question de ce qui va advenir de ces enfants qui, dans les années 60, seront ceux qui, pour certains, s'engageront dans des actions politiques assez violentes. Il y a quelque chose de très troublant à regarder aujourd'hui.
Oui. Rossellini avait cette particularité, peut-être, de garder une certaine distance vis-à-vis des idéologies, quoi. C'est quelqu'un qu'on peut difficilement classer ni parmi les communistes, ni parmi les démocrates chrétiens purs et durs. Et donc cela lui donne la possibilité de prendre une distance et justement de faire des enfants un peu les vecteurs de cette société qui est entièrement à reconstruire. Et pas seulement matériellement, moralement, quoi. Cette société qui sort de plus de 20 ans de régime fasciste, où on a courbé les chines. Et donc Rossellini va regarder ça, et je trouve que de ce point de vue, dans le prolongement de Rome ville ouverte, Païsa est un film étonnant, quoi, qui décrit la libération de l'Italie du sud au nord, au travers d'un certain nombre d'épisodes, et avec une sécheresse, en particulier le dernier épisode qui se passe dans la basse vallée du Pô, où les résistants sont assassinés par les nazis, non pas par les armes à feu, mais tout simplement en les noyant dans le Pô. Et le film se termine là, en disant, dans quelques mois plus tard, la guerre était finie, quoi. C'est-à-dire cette sécheresse, car Rossellini, elle est absolument unique vis-à-vis de l'évolution du pays. Et le final de Rome ville ouverte, après que le prêtre ait été fusillé, c'est curieux, c'est une scène étonnante où le peloton d'exécution est un peloton italien, sous la surveillance d'un officier allemand, et lorsque le peloton doit tirer sur un prêtre, finalement le fond de christianisme qu'il y a chez ces soldats est tel qu'ils abaissent leurs fusils et les balles vont se ficher dans le sol. Le prêtre est donc n'est pas mort, et c'est l'officier allemand qui va l'achever d'un coup de pistolet. Et ensuite, les enfants qui ont assisté à ça. C'est terrible, c'est un spectacle qui n'est tout sauf un spectacle à présenter à des enfants. Les enfants ont vu et repartent vers la ville avec la coupole du Vatican qui se détache sur le fond, dans une incertitude, et dans l'esprit de Rossellini sans doute une espérance. Les enfants sont toujours porteurs d'un avenir, pour le moins, quoi. Et le film se termine là-dessus, sur cette ouverture, sur cet espoir, malgré l'atrocité de ce que nous venons de voir, la mort de Pina, la mort du résistant de Manfredi, la mort de Don Pietro. C'est un constat d'une négativité absolue, quoi.
Alors cette ville, justement, vous parlez de cette coupole du Vatican, la ville le film s'appelle Rome, ville ouverte, c'est donc aussi le portrait d'une ville, et on a le sentiment, Julien Neute, que par moments, c'est moins ce que disent les personnages que leur façon de marcher dans la ville qui intéresse Rossellini.
C'est exactement ça, c'est la grande force du film, d'ailleurs, de nous la montrer en mouvement, comme ça, par opposition d'ailleurs avec la vision de l'occupant, qui la voit, les premières scènes du film, on voit l'occupant et le gestapiste qui a une grande carte dans son bureau et qui saucissonne la ville en 14 zones. Depuis son bureau, il fait remonter par sondage des photos de résistants et qui placarde sur cette carte. Ça, c'est la vision, voilà, d'en haut. Et puis, s'oppose à la vision vue du dessous, vue des habitants, vue des citoyens, vue des résistants, où là, c'est une ville beaucoup plus horizontale, où on passe d'un immeuble à l'autre, d'un quartier à l'autre. Alors, avec aussi des oppositions entre San Lorenzo, qui est le quartier ouvrier communiste résistant, et puis Parioli, qui est le quartier plus bourgeois des élites qui sont plus, voilà, et notamment avec la figure de la traîtresse.
On va en parler
évidemment,
tout à l'heure,
qui vit dans, donc il y a des oppositions un peu schématiques, symboliques, mais qui montrent aussi tous les mouvements de cette ville et notamment toutes les ruses et la capacité à s'approprier la ville par les résistants. Dans la scène Les Enfants, on voit qu'on passe, il y a des impasses, ouais, des souterrains, des façades qui se transforment en petits couloirs pour passer d'un appartement à l'autre et voilà, échapper aux occupants. Et ça, c'est la grande force du film, de finalement nous montrer cette ville vue d'en bas et qui finalement fait très peu place à la Rome touristique. Il y a très peu de plans de la Rome éternelle, si je puis dire, à part l'encadrement par la coupole du Vatican, le premier plan et le dernier, comme un contenant comme ça du film, entoure le film, mais après on est dans ces ruelles et dans les mouvements avec les citoyens et les résistants.
Et on est aussi dans cet immeuble, Aurore Renaud, la scène dont on vient de passer un extrait, c'est une sorte de travelling vertical dans les escaliers de l'immeuble au fur et à mesure que les enfants rentrent chez eux et se font disputer par leurs parents. On peut dire que cet immeuble, c'est un des personnages
absolument
principaux du film.
Moi, j'adore tout ce qui se passe dans l'immeuble parce que, effectivement, il y a cette idée que on vit à nombreux dans des appartements. On le voit d'ailleurs que Pina, elle habite avec sa sœur, elle habite avec plein de gens. Et que pour retrouver une intimité aussi, il faut sortir des appartements et être dans la cage d'escalier. Et il y a cette scène aussi qui est sublime des deux amoureux, de Anna Magnani qui retrouve Francesco et qui s'assoit par terre sur les marches pour avoir un peu d'intimité tous les deux. Et c'est effectivement la scène où les enfants rentrent chez eux et il y a ce travelling latéral où ils prennent une bonne baffe avant de rentrer dans leur foyer. Mais oui, il y a vraiment cette idée que ça, c'est pas du studio. Ça, c'est vraiment un immeuble. On sort du studio et qu'est-ce qu'on filme ? On filme la vraie vie des gens chez eux, dans cette promiscuité, dans ces escaliers, dans ces cours aussi intérieurs, puisque la scène où Magnani va être abattu, c'est dans la cour de cet immeuble-là qu'elle a lieu. Donc cet immeuble, c'est vraiment le centre névralgique du film.
On en parle depuis tout à l'heure de cette scène, la voici.
Francesco! Francesco! Francesco!
Pino! 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 Pino!
Francesco! Francesco Carogna! Francesco! 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 Lasciatemi!
Senti quando sono alla svolta. Guardate gli autisti.
Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le cinéma. Deuxième épisode, Rome ville ouverte, avec Jean Gilly, Julien Neutre et Aurore Renaud. Et ce qu'on a entendu, j'en ai encore des frissons dans le dos. C'est sans doute la séquence la plus célèbre de ce film. La séquence sans doute aussi la plus célèbre de l'histoire du cinéma, qui a marqué, je crois, tous ceux qui l'ont vu un jour. Qui veut bien décrire cette scène, et notamment comment elle est découpée? Allez, Jean Gilly.
Oui, c'est délicat, mais... Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que donc elle a été préparée par Rossellini sans indiquer exactement ce qui allait se passer. Et lorsque Anna Magnani sort dans la cour et voit que les hommes ont été arrêtés par les Allemands ont fait une rafle dans cet immeuble et ont arrêté tous les hommes pour les conduire, pour les interner. Elle s'aperçoit que son fiancé fait partie des...
Francesco, celui qu'elle a appelé.
Francesco, dit-elle en courant après. Ils sont sur un camion, et elle les voit l'arrière, et elle doit courir après ce camion, et elle doit tomber au bruit de la rafale de mitraillette qui va la faire disparaître, qui va l'assassiner. Et alors elle raconte, après coup, quand elle a commenté cette scène, que lorsqu'elle sort, elle était à l'extérieur du plan, lorsqu'elle arrive dans le plan et qu'elle va devoir courir après le camion, elle dit « j'ai eu l'impression de me retrouver » dans les années d'occupation de Rome. C'est-à-dire que le cinéaste, Rossellini, avait recréé l'atmosphère avec une justesse telle. Et alors elle explique qu'elle a couru derrière le camion et qu'au bruit de la rafale, alors que lorsqu'un comédien tombe, il prend certaines précautions, elle se jette à terre, enfin se laisse tomber, tellement elle est prise par l'intensité de la situation, quoi, sans prendre aucune précaution. Ce qui fait que, du fait, s'il y a une scène d'une très grande violence, c'est aussi à cause de cela. C'est-à-dire que elle tombe comme quelqu'un qui réellement a été fauché par une rafale de mitraillette. Et alors, ce qu'il y a de surcroît très, très important, c'est que lorsqu'elle s'effondre et que son fils, qui est encore habillé en enfant de chœur, puisqu'il secondait le prêtre qui est intervenu dans l'immeuble, lorsque son fils va se jeter sur elle, et on a une espèce de pietà, c'est une pietà au féminin, quoi, hein. Et de surcroît, ce qui accentue la violence de la scène, c'est qu'elle a les jupes relevées, les cuisses dénudées. Donc en même temps, il y a l'idée d'une femme qui non seulement est tuée, mais qui est violée, quoi, hein, qui est violée dans son intimité, quoi. Et c'est en cela que finalement Rossellini arrive à quelque chose. Il y a deux piétas dans les deux films, hein. Il y a une piéta de l'enfant qui s'est suicidé dans Allemagne années zéro, et puis il y a la piéta de Sorpine qui est tenue, hein. C'est vraiment l'image de la statue de Michel-Ange, c'est-à-dire le Christ dans les bras de sa mère, et là c'est le contraire, c'est l'enfant qui prend sa mère dans ses bras et qui la soutient alors qu'elle vient de mourir, quoi.
Julien Neutre,
bravo Jean déjà pour cette description. C'est juste alors deux choses sur la construction même, enfin trois choses plutôt sur la construction de cette scène. Il y a une d'abord au montage pour finir par ce qui est visible, cinq angles différent avec un montage très très serré qui crée une tension aussi incroyable et qui est assez nouveau dans la construction même d'une scène à l'époque. Et cette scène en fait et ce personnage s'inspire d'une histoire réelle, celle de Teresa Gulace, qui est une femme qui a été assassinée, ça, en venant rendre visite, une mère de famille de cinq enfants qui rend visite à son mari qui est emprisonné dans une caserne improvisée à Rome et qui, d'après les témoins, est assassinée de manière aussi arbitraire que l'épina là dans le film. On comprend pas pourquoi voilà, il lui tire dessus comme ça alors qu'elle représente aucun danger à part par un peu de désordre comme ça écrit. Et donc cette scène a beaucoup marqué a été reprise, a été décrite dans tous les journaux. Un sculpteur avait fait une représentation de Teresa Gulace. C'était un peu le symbole de la martyre et de l'Italie et de la Rome occupée. Donc il y a ces sources dont s'inspire Rossellini. Et dans la construction, il y a aussi l'opportunisme et l'anecdote de tournage un peu marrante et comment Rossellini en fait réussit à faire feu de tout bois et à tout récupérer dans le bon sens pour son film. Il y a une anecdote de tournage qui veut que Magnani avait un amant à l'époque qui n'était pas Rossellini et ça se passait pas très bien entre eux et il assiste un jour à une scène où elle lui court après alors que lui part et donc ça l'aurait inspiré dans la course folle de Pina. Donc il y a des sources très historiques, on va dire des sources qui sont plus d'incarnation comme ça et de figuration qui viennent des ressources à un moment donné du tournage et tout ça donne une des scènes en effet les plus riches possibles.
Oh, Renaud, c'est une scène qui aura un impact énorme. Moi, je me souviens l'avoir vue dans les histoires du cinéma de Godard, par exemple, retravaillée, ralentie. C'était une scène qui va marquer
énormément. Bah, déjà, c'est ce que dit Godard dans l'histoire du cinéma, hein, c'est que c'est ce film et cette femme qui vont racheter, en quelque sorte, le destin de l'Italie. L'Italie est quand même, à la fin de la guerre, dans une posture un petit peu ambiguë. Et quoi de plus fort que le personnage de Pina, qui défie les Allemands, parce que juste avant qu'elle meure, elle est inarrêtable. Il y a ce beau moment où elle court d'abord dans le couloir.
Carogna,
et elle passe deux barrages d'Allemands. Rien ne peut l'arrêter si ce n'est la mitraillette. Et juste avant d'ailleurs ce plan-là, hein, y a un Allemand qui passe en revue comme ça les femmes qui sont alignées et il s'approche d'elle, il a un geste comme ça un peu déplacé et elle le repousse. Donc Anna Magnani, Sora Pina, c'est vraiment la louve, la romaine, l'italienne, celle qui repousse l'Allemagne, celle qui repousse l'occupation allemande. Et effectivement, elle devient représentative de ce mouvement-là. Et c'est vrai que quand le film sort, il va profondément changer aussi la vision que la communauté internationale peut avoir de la posture de l'Italie à la fin de la guerre. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment un film qui a changé le monde, en tout cas la perception qu'on avait d'Italie à la fin de la guerre.
Julien Neutre, oui.
Dernière petite chose aussi, il faut redire que cette scène, elle a lieu, le film est à peu près au moitié, trois quarts.
44e minute du film.
Minute du film. Et ça, c'est quand même un choix absolument génial, narrativement. On s'extasie devant les séries aujourd'hui qui sont capables de nous créer comme ça des surprises narratives. Rossellini l'a inventé avec ça. Ce qui avait poussé d'ailleurs Clara Calamai, qui était la grande star de l'époque, à refuser le rôle, mais quel coup de génie de nous surprendre et de nous montrer, de nous mettre face à cet arbitraire-là qui peut arriver à tout moment, faire tuer l'héroïne à la moitié du film, c'est un truc qui n'avait jamais été fait avant et qui marque...
Hitchcock le reprendra dans Psychose en tuant Marion Crane
un
tiers
plus
du film.
C'est un vrai choc, effectivement, choc, parce que c'est l'arbitraire de la guerre. Et en même temps, Jean Gély, on dira toujours et en même temps avec oui. Rossellini, dans ce film qui est très dramatique, ce que raconte aussi Rossellini, c'est comment cette ville et ses gens sont animés par une pulsion de vie incroyable, alors qu'il les pousse justement, par exemple, à traverser deux barrages d'Allemands. Même écrasé par l'occupant, Rome est une ville ouverte et c'est une ville vivante.
C'est une ville vivante, c'est une ville qui résiste. D'ailleurs, dans l'épisode, même dans l'extrait que l'on a entendu, à la fin de l'extrait, on passe à autre chose. C'est-à-dire que.
Sans coup férir, ça va très vite.
Très vite.
À peine ils sont faits prisonniers, à peine ils sont libérés par des partisans.
Voilà, les partisans tendent une embuscade dans la périphérie romaine à un camion qui transporte justement les hommes que l'on a arrêtés dans l'immeuble dont on a parlé et vont les libérer. Et à la tête des résistants, c'est là d'ailleurs que se marque la présence de Manfredi, l'ingénieur communiste qui est à la tête de ce réseau de résistance, on passe brutalement à cet acte de résistance inouïe qui parvient à récupérer, à libérer les hommes qui ont été faits prisonniers peu de temps auparavant. L'immeuble, aujourd'hui, d'ailleurs, est encore un immeuble qu'on visite. Cet immeuble collectif où a été tourné Rome, ville ouverte, il est là. Et on peut aller le visiter et on reconnaît les lieux parce que ça a très très peu changé, quoi, cet environnement populaire, cet immeuble où Rossellini s'est d'ailleurs on peut se demander jusqu'à quel point il ne s'est pas amusé à représenter une scène où on fait passer un moribond pour quelqu'un qui vient de mourir et que l'on a assommé d'un coup de poêle à frire.
C'est le curé qui tient la poêle à frire.
Et d'ailleurs, Monicelli a été un des premiers, peut-être même le premier, à souligner que dans Rome, ville ouverte, il y avait des séquences de pure comédie, quoi, appelées à faire rire. Dès l'ouverture du film, Don Pietro joue au football avec des gamins et reçoit le ballon sur la tête. Un peu plus loin, il va chez un antiquaire pour transmettre un message et il tombe sur une statue de Vénus dénudée. Donc, sa pudeur d'homme d'église, il est face au sein de Vénus, donc il détourne la statue et à ce moment-là, il tombe sur les fesses. Donc, il y a une espèce de gag, littéralement, un gag qui est introduit comme ça. D'où cette habileté extraordinaire que l'on a déjà maintes fois soulignée de Rossellini. Et alors, pour revenir un tout petit peu en 46, lorsque le film arrive au Festival de Cannes, un des effets, c'est exactement celui que vous remarquez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Italie avait une image à reconstruire. Elle sortait quand même de l'alliance avec l'Allemagne. Et le film a fait comprendre au monde entier qu'il y avait eu une résistance à l'occupation nazie, qu'il y a eu des martyrs, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des destructions effroyables effectuées par les Allemands en Italie. Et donc, d'une certaine manière, c'est un film qui a redonné une virginité à l'Italie d'après-guerre, qui a fait comprendre au monde que l'Italie, finalement, sortait d'une guerre qui avait été tout aussi cruelle que celle qu'avaient pu affronter les Français, les Belges, les Hollandais, enfin les différents pays qui avaient été occupé par les Allemands.
Julien Neutre.
L'ambassadeur Quaroni, qui est le représentant de l'Italie en France, dira d'ailleurs qu'il devait plus à Rome ville ouverte qu'à tout son travail. Il reconnaît avec beaucoup d'humilité que c'est Rome ville ouverte qui l'a aidé à imposer une autre image, en effet, de l'Italie sur la scène internationale.
Alors, des martyrs de la résistance, mais voici encore deux.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Regarde, prêtre, regarde. Tu es satisfait? Là, voilà ta charité chrétienne. C'est ça ton amour pour ton frère? Tu as préféré le laisser mettre en cet état plutôt que de parler. Mais, prêtre hypocrite, n'espère pas te sauver, ni sauver tes complices. Tu auras la fin que tu mérites, celle des traîtres. Nous vous détruirons tous, jusqu'au dernier.
Tu n'as pas parlé.
Et du Saint-Esprit, que ton âme repose en paix, ainsi soit-il. C'est fini, mais il n'a rien dit. Vous vouliez tuer ce qu'il y a dans son âme, vous n'avez réussi qu'à tuer l'homme. Soyez maudits! Maudits! Vous serez bientôt détruits comme de la vermine. Soyez tous maudits! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, mon Dieu, pardon. De profundis in la via tecum, Seigneur, vous aurez sur la terre. Si vous exigez, Seigneur, un compte sévère de nos iniquités, qui pourra subsister devant vous, ô mon Dieu? Mais vous aimez à pardonner. Appuyez sur votre loi, j'attends, Seigneur.
Raus! Schaff den Pfarrer weg! Schnell, alle raus!
C'est une scène assez complexe que celle-ci. On va commencer par ces derniers moments du chef de la résistance communiste, donc Manfredi, torturé à mort dans les locaux de la Gestapo, dans des scènes de torture d'ailleurs assez insoutenables encore aujourd'hui. Celui qui l'accompagne et qui prie pour lui, c'est, on l'aura compris, le prêtre dont on parle depuis le début de cette émission, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, comme écrivait Aragon dans La Rose et le Reseda. Et c'est aussi cela que raconte le film Aurore Renaud. homme, mais il y a plus que ça. Dès Rome, ville ouverte, il y a en fait ce mélange de spiritualité, de matérialisme proprement rossellinien. C'est vraiment sa signature et c'est relevé très vite par de nombreux commentateurs.
Oui, tout à fait. Bah, ce qui fait que le film est aussi fédérateur quand il va sortir, c'est que ils ont eu l'intelligence avec Amédée de faire un film qui contente à la fois les communistes, avec le personnage de Manfredi et de Francesco, et aussi les chrétiens.
C'est le compromis historique.
Absolument. Et d'ailleurs, le personnage du prêtre, Don Pietro, est un amalgame entre deux personnages historiques, Don Morosini et Don Papagallo, qui ont été fusillés par les Allemands. Donc il y a déjà cette assise historique qui leur donne ce crédit-là. Et oui, de toute façon, Rome, ville ouverte propose le portrait de trois martyrs. Le premier, c'est donc Pina, qui est sauvagement abattu au milieu du film. Et puis à la fin, ce sont les deux autres. Tous les bons personnages meurent dans Rome, ville ouverte, à part Francesco, qui était celui qui aurait dû être arrêté et qui finalement est libéré, de manière d'ailleurs très hasardeuse. Mais voilà, il faut qu'ils en passent par là, il faut mourir pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais il y a effectivement une forme de catholicisme dans le film, à travers déjà les péchés qui sont rachetés, les péchés des Italiens qui vont être rachetés par les attitudes des films. Et il y a quelque chose qui est aussi important dans le film, je crois, c'est de préciser que unanimement le mal est allemand, nazi, en tout cas. Il y a très peu de personnages italiens qui sont négatifs dans le film. Et en cela, il y a une vision qui est, bon, on l'a pas dit au moment de la sortie du film, en tout cas pas trop fort, on le dira plutôt après, il y a une forme de manichéisme. Les Italiens ne paraissent pas fascistes dans le film. Ils sont tous partisans, qu'ils soient communistes ou chrétiens, mais c'est vrai que ça donne une vision assez parcellaire de l'Italie à l'époque.
Enfin, ta nuance, c'est quand même, c'est toujours très compliqué évidemment chez Rossellini, mais même chez les Allemands, il y a des officiers qui commencent à douter de ce qu'ils font et de l'inhumanité même de leur méthode. Il y a un déserteur notamment.
Autrichien quand même.
Qui est autrichien. Oui, mais enfin, bon, on sait que les Autrichiens n'étaient pas forcément les moins zélés. À l'époque, et puis il y a cette figure, Jean Gilly, assez étonnante, justement, de la délatrice, celle qu'on a entendue rire puis crier à la fin du film. Et là, on est vraiment chez Rossellini, c'est-à-dire qu'il va donner tous les aspects assez complexes d'une situation.
Oui, c'est le dernier des protagonistes du film sur lequel on s'attarde pas trop. C'est une actrice, Maria Micchi, qui a eu une certaine heure de gloire, qui à l'époque était la compagne du scénariste Amédée. Ils étaient d'ailleurs en train de se séparer, et paraît-il que le tournage a été marqué par des disputes sur le plateau entre Maria Micchi et Sergio Amédée. Alors elle joue elle est là dans le film, elle est la maîtresse de Manfredi, quoi. Et c'est elle qui va savoir où se trouve, parce que Manfredi aura la sottise de lui faire part des lieux où il se cache, et elle est tenue par, en quelque sorte, esclave d'une femme au profil, enfin elle est liée, elle est allemande, et elle la tient
manifestement lesbienne aussi,
c'est-à-dire aussi quelque chose d'assez assez incroyable dans un film de cette époque-là. Et surtout, on évoque un autre sujet tabou, elle est droguée, Maria Micchi, elle est cocaïnomane, et c'est pour avoir de la cocaïne finalement qu'elle trahit son amant, hein. Et d'ailleurs, quand à la fin elle arrive dans la salle de torture où elle découvre son amant couvert de sang au sol, mort, elle a un ricanement et des cris d'horreur, parce qu'elle est dans un état second, quoi. Elle n'est pas en mesure de juger de la scène comme elle devrait en juger. Donc Rossellini n'esquive rien. Et il s'attarde longuement sur ce personnage. Et donc on a effectivement l'opposition, il y a un antagonisme entre une Italie saine, courageuse, active, c'est Pina, et puis il y a une Italie qui est victime de l'idéologie au pouvoir, qui est une Italie droguée, esclave, et qui est représentée par Maria Micchi.
Quoi. Il la charge quand même, effectivement, cocaïnomane. A priori, elle a des relations aussi avec l'Allemande qui l'a fournie en cocaïne, donc elle serait bisexuelle. Le personnage de Maria Micchi est particulièrement chargé dans le film.
Oui, le personnage est tout à fait chargé. Ça, il y a peut-être un excès. Mais cela dit, je crois que c'est un excès qui est délibéré pour montrer, pour opposer deux personnages féminins, quoi, un personnage positif et un personnage négatif. Alors, il faut dire aussi qu'à chaud, on peut comprendre. Tout à l'heure, vous remarquiez le fait que le film peut être un peu unilatéral. Mais on est quand même en 44-45, c'est-à-dire on sort d'une expérience épouvantable. L'Italie a connu, il y a eu le massacre des fosses ardéatines où les Allemands ont abattu plus de 300 personnes à la mitraillette dans des catacombes. Donc l'Italie est un pays qui sort profondément traumatisé par la guerre, et que donc un cinéaste qui tourne ce film-là et le fasse un peu un procès à charge, c'est assez compréhensible dans le contexte. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut remarquer que certaines choses sont soulignées de façon un peu forte, mais il faut les replacer dans le contexte.
Mais il me semble que c'est pas si manichéen que ça, justement, que ce personnage que je trouve très passionnant est en fait assez touchant et bouleversant, de la moucharde. Marina introduit un trouble qui est sans doute le moment, peut-être qu'on va un peu vite, Julien Neutre, mais où Rossellini commence à inventer, au-delà du néo-réalisme, ce qu'on appellera le cinéma moderne, qui est un cinéma du trouble, de la non-résolution.
C'est assez juste, c'est un cinéma. Ouais, on est dans une forme très très hybride, et tous les débats qu'on a, ils existent aussi à l'époque. La réception est hyper difficile entre ceux qui voient quelque chose d'hyper réaliste, qui ont envie d'y voir quelque chose d'hyper réaliste, d'autres qui pensent que c'est même du grand guignol, et cette forme très moderne justement de mixer des sources quasi documentaires, mais en même temps d'utiliser tous les moyens du cinéma, y compris symboliques, narratifs, pour faire donner à voir, réfléchir sur une analyse. Et un regard de cinéaste, oui, c'est hyper moderne, et on a là l'essence du cinéma au-delà du néo-réalisme. En fait, ce film est très peu néo-réaliste. Il y a des bribes, et on voit bien pourquoi il a été rattaché à ce mouvement-là et comment il a pu être récupéré dans ce mouvement-là. Mais on est très très loin des films néo-réalistes du temps continu, de la démédiation, si je puis dire, entre le réalisateur et son sujet. Non, Rossellini est là, c'est très construit, c'est très écrit, c'est une analyse, alors qui peut manquer de recul historique, hein, c'est pas un historien, et c'est encore, les braises sont encore chaudes, mais il y a un recul, il y a une construction, et une volonté d'utiliser tous les moyens du cinéma pour figurer cette analyse-là. Et le visage de Manfredi, pour moi, rappelle aussi le discours de Malraux sur Jean Moulin, quoi. On est là, c'est le visage de l'Italie. Et cette scène, alors certains l'ont vu encore une fois comme trop réaliste, irregardable, d'autres trop théâtral, mais c'est un masque tragique comme celui, le visage de Jean Moulin à travers le discours de Malraux, et c'est le visage de l'Italie.
Jean-Julien, un tout petit dernier mot.
Oui, un dernier mot. Maria Micchi, Bertolucci était tellement admiratif devant ce film que dans Dernier Tango à Paris, il y a un petit rôle tenu par Maria Micchi qui joue le rôle de la belle-mère de Brando, quoi. Il y a la jeune femme qui s'est suicidée au début du film, et il y a sa mère qui vient la voir, et la mère qui est donc la belle-mère de Brando, du mari, c'est Maria Micchi, quoi. Et moi, j'ai posé la question à Bertolucci, il me dit, bien sûr, il me dit, c'est une citation de Rome ville ouverte.
Thank you.
Merci Jean Gilly, Julien Neutre et Aurore Renaud pour voir et revoir Rome Ville Ouverte dans une très belle copie restaurée. Le film est en coffret DVD ou Blu-ray chez Blackout avec les deux autres films de la trilogie de l'après-guerre, Paisa et Allemagne Année Zéro. Et puis pour en savoir plus, on vous recommande la lecture de Rome Ville Ouverte au cinéma entre vision mythologique et géographie sociale de Julien Neutre aux éditions de l'Aube. Roberto Rossellini de l'histoire à la télévision. Tout ce qui se passe après Rome Ville Ouverte d'Aurore Renaud, c'est aux éditions du Bord de l'eau. Et puis, bien entendu, toute l'œuvre immense de Jean Gilly sur le cinéma italien, dont le dernier sur Mario Soldati. Pour découvrir ses films, c'est chez Rouge Profond. À la prise de son aujourd'hui, Olivier Dupré. Cette émission était préparée par Marceau Vassy et réalisée par Vivian Lecuivre.